Bienvenue à l'hôtel Le Plaza Bruxelles.
Podcast.
Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et bien entendu notre hôte qui nous reçoit chaque mois, le Plaza Hotel Bruxelles. Devant moi, j'ai Graziella.
Bonjour.
Et à côté de moi, j'ai Caroline Gazia qui va co-animer cette interview.
Salut.
Et Graziella, je t'ai invitée au micro parce que tu as un métier qui est victime, je pense, mais je me trompe peut-être, tu me diras si j'ai tort ou raison, de certains clichés. Tu es sexologue.
Je suis entre autres sexologue.
Entre autres sexologue. Oui. Alors je me suis dit, ça c'est une bonne occasion d'avoir quelques échanges, de faire un peu le tour du métier, de présenter cette activité, voir un peu les avantages, les inconvénients, et peut-être justement faire tomber certains de ces clichés ou casser certaines attitudes. Alors avant de commencer, je vais te demander, comme à tous mes invités, en quelques mots, est-ce que tu as fait ce que tu espérais faire quand tu étais ado ou t'as changé?
Alors pas du tout. Je ne sais pas si j'avais un rêve, je n'en avais pas, je pense, à l'époque. Je me suis sentie dans une famille... Pas spécialement à ma place, hein. Un peu le mouton noir, l'enfant qui bouquinait beaucoup, qui a appris beaucoup dans les livres, enfermé dans sa chambre. Je me suis vraiment construite dans mes bouquins, ce qui a un peu désemparé mes parents, qui n'ont pas trop compris le spécimen que j'étais. J'ai un parcours à l'école classique assez facile avec une aisance, même si j'ai la dyslexie qui est avec moi depuis toujours. Et donc, j'ai dû beaucoup batailler par rapport à
concentration
et au
travail.
Voilà, à la
et
concentration.
Et quel type d'études
Donc, j'ai terminé des secondaires et j'ai suivi, je pense, les copines à l'époque et j'ai fait comptable. Et je me suis réveillée un jour, je devais avoir 28, 29 ans, 6 ans, 7 ans de comptabilité dans un petit bureau avec un directeur financier en me disant « mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Jamais dans ma tête, je me suis dit « tiens, est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis dit « tiens, je vais être comptable ». Bah, écoute, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Il n'y avait pas la passion.
Rien du tout. Ce n'était pas du tout ça. Et en même temps... J'ai eu un parcours de vie de jeune femme. Je suis une maman de 3 enfants. La maladie est arrivée dans notre famille par l'un de mes enfants. Et c'est une maladie génétique évolutive et incurable. Et quand ça nous est tombé dessus, les médecins ne nous donnaient pas beaucoup d'espoir à l'époque. Aujourd'hui, mon enfant va bien. Et il n'y avait rien de préventif qui était mis en place. Voilà. Il n'y avait que du curatif. Le curatif, il n'y avait pas grand-chose. Et il n'y avait rien au niveau préventif. Et moi, en tant que maman... Nuit et jour, j'ai fait des recherches, je me suis investie en me disant « je ne peux pas rester là à ne rien faire ». Puis, il fait que j'ai divorcé. Le parcours de vie a fait qu'on s'est séparés. Et là, j'ai décidé de reprendre des études et de faire vraiment ce qui était au fond de moi, ce qui était ma fibre, c'est-à-dire travailler avec l'humain.
Tu l'avais identifié déjà ?
Oui.
D'accord.
Oui. J'avais voulu reprendre des études en étant mariée et puis ça n'agréait pas mon couple. Et quand tout est parti en vrille Mon dernier avait 6 mois. Je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant tout casser, tout reconstruire. Et c'est ce que j'ai fait.
Donc, c'est rebondir sur un échec, finalement.
Voilà, vraiment. Avec le recul, ce n'est pas du tout effectivement un échec. Ça m'a vraiment permis de faire naître cette passion qui était en moi depuis petite dans mes bouquins, mais sur lesquels je n'arrivais pas spécialement à mettre de mots parce que ma culture familiale n'était pas du tout ouverte à ça. Moi, j'ai un milieu ouvrier et l'enfant qui a le nez dans ses bouquins, ça fait forcément un peu peur. Donc, j'ai repris les études avec beaucoup de force, beaucoup de pleurs et j'ai brillamment réussi ce changement de formation. Et puis, je n'ai jamais arrêté d'apprendre.
Et tu avais quel âge au moment de...
30 ans.
De changement.
J'ai 44 ans aujourd'hui, j'en avais 30 à l'époque.
Ça, je ne voulais pas te demander. Mais...
J'assume, je dis. Et j'ai continué à me former. Donc, j'ai appris la communication avec une orientation promotion de la santé qui m'a donné l'occasion de trouver un premier job dans des écoles défavorisées sur Liège où j'ai travaillé le lien avec des familles défavorisées et l'école. Donc, c'était
chapeau.
Mon premier travail en com. Et puis, je suis allée chercher de la thérapie chez Betson, à l'Institut Betson à Liège, qui m'a permis d'être thérapeute. C'est là où j'ai découvert les prémices de l'hypnose, mais je lisais déjà des bouquins d'hypnose depuis l'âge de 20 ans. J'ai un peu découvert l'hypnose et j'ai un peu approfondi l'hypnose, qui est une de mes passions aussi. Et puis, je suis allée chercher effectivement un master en hypnothérapie et j'ai continué en faisant du coaching. Voilà, pour moi, c'était important de mettre en place des choses et de pouvoir aider les gens, vraiment.
Oui, à ce moment-là, on ne pense pas forcément, le frein, c'est qu'il y a plein de coachs sur le marché.
Pas du tout.
On suit sa passion, on suit son envie et son cœur.
Oui. J'étais une apprentie coach, voilà. Oui, vraiment. Et dans mon travail, c'est ce que je faisais au quotidien. J'aidais les gens, je les accompagnais dans toutes leurs difficultés. Et ça m'a permis un peu de contrebalancer ce que je vivais à la maison. Et certainement de me dire, voilà, je me sentais impuissante en tant que maman. Mais dans mon travail, je pouvais donner, je pouvais aider. Pour moi, c'était vraiment important. Mais encore à cette époque-là, je ne me disais pas, tiens, je vais avoir mon propre cabinet, je vais monter ma boîte. Je n'étais pas du tout dans ça. Je me suis vraiment comme un papillon, en fait. J'ai grandi, je me suis transformée de formation en formation, d'année en année, de gens que j'ai rencontrés. Parce que c'est vrai que dans mon métier, je donne beaucoup, mais je reçois énormément aussi. Et tout ça, tout ce contexte m'a vraiment permis d'être ce que je suis aujourd'hui.
C'est les petites pierres qui vont faire construire
vraiment,
la cathédrale.
Vraiment. Moi, je dis que c'est un puzzle, en fait, qui aujourd'hui est réuni. Et j'ai deux casquettes dans mon professionnel. Le premier, c'est que j'ai une société de formation et de coaching en entreprise. Parce que je suis coach et que c'était ma vocation aussi. Parce que j'aime donner des formations en communication, en change management. Et ça me permet aussi d'amener toutes mes techniques de développement personnel au sein de l'entreprise. Parce qu'une fois qu'on est introduit dans les entreprise, c'est plus facile, bien sûr. Et ça me permet d'aider les gens, de faire en sorte qu'ils aillent mieux, qu'ils se sentent mieux et qu'ils se prennent en charge et de leur donner des petits outils. Parce que moi, il y a un mot que j'aime bien dans la vie, c'est responsabilité. Et c'est responsabiliser les gens face à leurs difficultés et face à ce qui leur arrive dans la vie. Et alors, moi, j'ai un exemple à la maison tous les jours au quotidien. On peut avoir des choses difficiles, dramatiques. Moi, je vois mon enfant qui se lève tous les jours, qui suit des études, qui est souriante, dynamique, qui est une belle jeune femme aujourd'hui. Et rien que ça, c'est de se dire, allez, à côté de ça, on a tous ce qu'il faut pour pouvoir réussir et aller, on y va. Et c'est ça que je donne aux gens. Je donne vraiment cette force, cet exemple de dire, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de dramatique.
La force de regarder le bonheur avant tout.
Vraiment, vraiment.
On résume comme ça.
Oui, oui. Et je prends souvent cet exemple au cabinet, parce qu'aujourd'hui, j'ai un cabinet de coaching privé en dehors de l'entreprise.
C'est la deuxième casquette ?
C'est la deuxième casquette.
D'accord.
Bon, je travaillais en coaching, je travaillais beaucoup avec des cadres qui m'amenaient beaucoup de difficultés personnelles aussi. Ils venaient livrer leurs difficultés au travail et forcément, ça avait des répercussions dans leur couple. Et je leur disais, moi, le couple, je ne connais pas bien. En plus, ma vie privée, ce n'était pas trop ça. Donc, l'adresse d'un collègue, allez le trouver, allez voir.
Mais tu as rebondi, tu en as fait une force.
Et je me suis dit, je vais arrêter d'envoyer les gens, parce que les gens me disaient, oui, mais vous savez, Graziella, moi, j'ai confiance en vous, le cadre s'était posé.
Le contact s'était fait, la confiance.
Et je me suis dit, allez, je vais aller chercher la thérapie de couple, la sexo, pourquoi ? Parce que je dis toujours que je suis de religion sicilienne, et que la sexualité n'a vraiment pas été un sujet sur lequel on s'est très, très fort étendu, pour ne pas dire pas du tout à la maison. Et dans mon parcours, quand j'ai travaillé dans les écoles, j'ai fait tout ce qui était la vie affective et sexuelle. Donc, je parlais de sexualité aux adolescents, de primaire et de secondaire, et c'était quelque chose dans lequel j'étais à l'aise. Je me suis dit, tiens, là, j'ai une petite formation de base. Je vais vraiment aller chercher de la complémentarité qui, au départ, m'a été fort utile aussi.
Donc, c'est ton public, si je comprends bien, qui t'a amené
vraiment
l'envie, finalement, de t'orienter vers la sexologie en particulier.
Oui, c'est pour ça que je ne sais pas ce que je ferai demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Je serai encore certainement dans d'autres beaux chemins.
Tu laisses les voies ouvertes.
Oui,
c'est bien.
Oui, mais moi, je suis une boulimique du savoir. Je suis très curieuse dans la vie. Je m'ennuie très vite quand je suis sur place et j'ai besoin de challenge tous les jours.
Mais on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi une sexologue ?
Alors, je ne me définis pas spécialement comme une sexologue parce que la sexologie, aujourd'hui, fait partie du milieu médical.
Mmh.
Et je trouve que la sexologie... Alors, il y a effectivement des
c'est pour ça que je pose la question.
Des pathologies
faire,
qui doivent être vues par des médecins et c'est vraiment de la pure sexo, mais ça, ce n'est pas les gens que je vois. Par contre, les autres, c'est de l'éducation sexuelle que je fais. C'est casser des fausses croyances.
Mais aux adultes aussi.
Et aux adultes aussi, bien sûr. Surtout aux adultes, aujourd'hui au cabinet, c'est que des adultes. C'est beaucoup des messieurs. Et c'est vraiment donner des vrais messages, des bons messages. C'est casser les croyances, c'est enlever tous ces stéréotypes autour de la sexo. Et d'aider les gens à être heureux. Aujourd'hui, pour être en bonne santé, la chaire de l'OMS, elle dit qu'il faut avoir une santé physique, une santé mentale et depuis plusieurs années, une santé sexuelle.
Un équilibre sexuel atteint.
Donc, je suis en bonne santé si effectivement j'ai un équilibre sexuel. Et l'équilibre sexuel, ça ne veut pas spécialement dire la pénétration dans le rapport sexuel. Faire l'amour avec quelqu'un, c'est donner du plaisir, de la tendresse, c'est un tout. Donc, Je suis allée dans cette voie-là parce que je trouvais ça très intéressant, parce que les gens arrivaient en souffrance et la sexualité qui est quelque chose qui apporte normalement du bonheur, du plaisir, du bien-être, bah, ce n'était pas le cas.
Là, c'est un facteur de souffrance.
Ça allait toujours. Et si j'ai un rêve à formuler aujourd'hui, je le dis, et c'est pour ça que je fais de la radio et que je communique beaucoup via les réseaux sociaux, c'est que ce cabinet n'existerait plus, ce serait chouette pour moi. Parce que quand les gens viennent, ils ont des années et des années de souffrance qui viennent déposer. Et en quelques consultations, on peut en tout cas ramener des soulagements, enlever toute la souffrance, on ne peut pas. Mais en tout cas, on se dit, ben, flûte, si je vous avais rencontré il y a 10 ans ou 15 ans, ma vie aurait été certainement différente. Et je voudrais que ce cabinet qui est curatif n'existe plus et être vraiment dans la prévention, ce qui fait le lien avec ce que je suis depuis toujours, en tout cas depuis que je suis maman.
Donc si je résume, la définition du sexologue tel que tu le représentes, c'est plutôt la coach en sexologie.
Oui, c'est vraiment
c'est
du conseil.
Vraiment ça.
Je suis vraiment une conseillère en sexo. Je suis très trash quand je parle au cabinet, donc je ne mâche pas mes mots.
Il n'y a pas de tabou.
Voilà, mon émission radio, c'est Graziella, 110 tours, ni tabou. Ça veut bien dire ce que ça veut
important.
Dire. Avec aussi des vrais mots, des vrais termes, sans rentrer dans la vulgarité jamais. Quoi.
Alors, tu as dit pourquoi tu t'es lancée dans cette orientation. Tu as dit qui est ton public. Tu as dit ce que tu fais exactement et comment tu te définis.
Tu as mentionné que c'est souvent des hommes. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on fait en couple?
Donc, j'ai aussi de la thérapie de couple, hein, du coaching.
Mais quoi, il n'y a pas de femme
seule? De couple. S'il y en a quelques-unes avec la perte de la libido, pas mal de douleurs aussi au niveau gynécologique, s'il y en a, mais bizarrement, elles arrivent moins chez moi.
C'est encore tabou qu'elles fassent le déplacement, c'est ça?
Oui, c'est encore tabou d'en
parler. Malgré qu'on vive à ce siècle.
Oui. Est-ce que c'est tabou ou est-ce que c'est normal? C'est normal si dans mes rapports sexuels j'ai mal, donc c'est normal que je n'ai plus de rapports sexuels. C'est normal que je n'ai plus de libido quand on a les enfants, quand on prend de l'âge, après 40 ans, ben on n'a plus de libido. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. C'était encore le cas ce matin au cabinet d'un couple que je recevais. Il y avait pratiquement 10 ans qui vivaient sans rapports sexuels. C'était normal. Voilà. Or, c'est vraiment...
Pour elle, mais
pour
pas
elle,
pour lui.
Mais pas pour lui. Et c'est vraiment de se dire, ben non, c'est pas normal tout ça. Et arrêtons de dire que c'est normal qu'on n'y ait pas de sexualité dans nos vies.
Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pas guérir la situation entre eux. Tu
pas
vas
la guérir, mais leur donner déjà des bons messages.
Oui. Ramener ça, c'est la question du comment. Hein. C'est un peu comment ça se passe.
Ramener
quoi,
la vérité. Ouais. Et dire c'est ok, on en est là, il n'y a plus de libido. Ok, est-ce que vous voulez que votre libido revienne? Oui, ben si oui, c'est possible quoi. Rien n'est mort, tant qu'on est vivant, tout est possible.
Tu donnes des solutions, tu redonnes espoir,
donnes
et tu vas guider les gens.
Ouais. Okay. Ouais, donc c'est vraiment du coaching là. Et donc je donne un programme avec des choses à respecter, plus ou moins. Au fond de moi, j'espère qu'ils ne les respecteront pas, parce que comme ça voudrait dire qu'ils ont dépassé certains blocages. Ça, je ne le dis pas tout de suite. C'est vraiment leur donner une ligne de conduite et leur expliquer, ben voilà, la majorité des gens que je vois, on travaille comme ça et ça fonctionne. Alors après, il y en a qu'on sauve et il y en a qu'on ne sauvera pas, ça c'est clair. Mais en tout cas, on amène le fait de dire, ah ben je suis... C'est pareil pour la femme qui vient, qui a une perte de libido. Elle se dit, ah ben ok, je ne suis pas la seule, donc c'est normal. Oui, c'est normal, mais ce n'est pas normal qu'on reste dans cette perte de libido. Sauf si mon compagnon de vie est OK avec ça, et si tous les deux vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de sexualité dans votre vie, c'est OK. Mais dès qu'il y a de la souffrance pour l'un et pour l'autre, alors c'est intéressant de venir. Et je disais, hein, un peu comme une pub qui passait il y a quelques temps d'ici pour les avocats, si on pouvait venir voir des conseillers conjugaux et sexo avant qu'il n'y ait des soucis, ce serait vachement bien, quoi. Et c'est ça mes messages, c'est d'être là avant qu'il y ait de la difficulté. Dès que je sens que ça ne va pas, il y a moyen d'aller trouver des arguments, des exercices faciles, applicables au quotidien. Et j'ai commencé à travailler beaucoup sur les réseaux sociaux et à faire de la radio par hasard, hein, vraiment, vraiment par hasard. D'abord, j'ai eu une chronique dans une émission sexo, où ce que j'amenais était assez sérieux par rapport à l'émission. Et puis très vite, on m'a dit, écoute, je pense qu'il faut que tu fasses ton émission en direct. Je n'avais jamais fait la radio.
Alors, j'ai encore quelques questions. Oui. Quand on est dans une société, on a des influences judéo-chrétiennes, mais on a aussi une société ici en Belgique qui est multiculturelle, avec d'autres types de cultures qui sont mélangées. C'est une richesse. Il y a des gens qui sont influencés par leur vie, dans leur culture générale, dans leur parcours, et qui ont des tabous et qui n'en ont pas. Des gens extravertis, des gens super ouverts, des gens super fermés. Comment, déjà, est-ce qu'il y a un premier filtre naturel qui se fait? Est-ce que seulement une partie de cette population vient te voir d'office et une autre pas? Est-ce que tu es amenée à devoir aller chercher des gens par la main presque pour les attirer vers toi?
Ça, c'est la radio, les réseaux sociaux qui s'en occupent aujourd'hui. Mais ceux qui arrivent
chez moi... Mais tu constates un filtre naturel, oui, il y a des tabous très forts encore. Oui, ça, j'ai cru comprendre déjà.
Oui, vraiment, vraiment, vraiment. On ne parle pas de la sexualité chez tout le monde de la même façon. Moi, je vois dans ma famille...
Bah, tu prenais l'exemple de la famille sicilienne.
On n'en parle pas. Aujourd'hui, mes parents savent que je fais un peu de coaching, que je vois un peu des couples. Mais la sexo, ils ferment les yeux et les oreilles dessus, quoi. Hein. Je pense qu'ils écoutent jamais la radio non plus.
Parce qu'il y a des cultures où, par exemple, l'homme est le pilier, la femme n'a pas le rôle de se mettre en avant. Dans ce cas-là, si c'est l'homme qui vient te voir, c'est d'office pas la femme, donc t'as pas d'échange avec la femme, alors.
Alors, quand c'est l'homme qui vient, parce qu'effectivement, il estime que ça ne se passe pas comme il voudrait que ça se passe, ça veut dire qu'il n'est pas heureux dans son...
C'est pas stressant pour toi, pardon de t'interrompre, parce que tu peux te dire, tiens, je vais lui donner des conseils, mais qu'est-ce qu'il va faire lui à la maison?
J'écoute beaucoup. Et puis, très rapidement, on amène l'autre membre du couple dans la consultation.
Et si là, culturellement, ça passe pas?
Ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'essaye d'être à l'écoute. Uh-huh. Je fais du décodage de la communication non-verbale. Donc, je suis très, très attentif à la manière dont les gens sont posés, au micro-mouvement dans le visage. Et je vois tout de suite si je choque ou si je ne choque pas. Donc, j'y vais toujours crescendo. Et j'écoute les gens. Donc, je fais d'abord une anamnèse. Je leur demande comment ils se sont rencontrés. J'écoute ce qu'ils disent, les mots
anamnèse,
qu'ils utilisent.
Terme médical.
L'anamnèse. Donc,
première écoute d'un patient pour faire son historique.
Exactement.
Tu as une approche scientifique.
Oui, quand même.
C'est important, c'est pour ça que je le mentionne. Je te laisse continuer.
Et du coup, on écoute tout ça. Enfin, j'écoute, je suis attentive. Et puis, je vois ce que je peux dire ou ne pas dire. Après, si je vois qu'effectivement, culturellement, il peut y avoir un blocage. Par exemple, quand je reçois un couple, des fois, je reçois d'abord un et puis l'autre. Des fois, les deux ensemble. Et puis, les membres du couple de manière séparée. Alors, ce que je fais, c'est que si je vois, par exemple, que ça coince chez la dame, je la prends en consultation individuelle. Et là, je peux amener des messages que je n'oserais pas dire devant son conjoint. Voilà.
Ça veut dire que tu es constamment obligé de t'adapter.
Tout le temps.
Tu es obligé de constamment te remettre en question.
Tout le temps.
C'est une première compétence nécessaire pour ton métier.
Oui.
L'écoute, tu l'as mentionné,
oui.
Une remise en question et une souplesse et une flexibilité énorme.
Oui. Et faire attention à mes propres valeurs aussi. Et ça, c'est compliqué. Quand j'ai des gens qui viennent... Donc moi, je disais avec des valeurs très fermées sexuellement. Pour moi, l'épanouissement sexuel de la femme, ça n'existait pas. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec la trentaine chez moi. Moi, j'en parle ouvertement à mes enfants. J'ai deux filles et un petit garçon. J'en parle de la même façon aux trois, depuis qu'ils sont petits, sans tabou, avec des mots à la hauteur de ce qu'ils sont et de leurs questions, bien sûr, sans se cacher aussi. Comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que j'amène. Et après, tout le monde n'a pas besoin de vivre la sexualité de la même façon. Il y a des gens pour qui la sexualité a une petite place dans le couple, et c'est OK pour moi aussi. Et puis, il y en a d'autres où la sexualité a beaucoup de place.
Ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient te voir et que c'est quelqu'un qui, pour l'échangisme, le sadomasochisme, qui voit sa sexualité ouverte à plusieurs partenaires...
C'est ça que tu voulais dire
Tu vas mettre un frein, tu vas dire stop, je n'aide pas.
Non, bah, je suis formée pour effectivement écouter.
Mais quoi, tu vas vouloir recadrer alors?
Pas du tout. Donc j'écoute très formatage. J'écoute beaucoup ce qu'ils disent et je vois ce qui est OK ou peu. S'il y a de la souffrance derrière, alors on va plutôt aller chercher la souffrance et travailler leurs croyances par rapport à ça. Souvent, c'est les deux membres du couple qui viennent lorsque ce sont des couples échangistes. Et il y a souvent l'un des deux qui n'est pas bien, qui est blessé. Les autres, je ne les vois pas parce qu'ils vont bien. En tout cas, c'est ce qui se dit. Moi, j'ai un doute, mais c'est ce qui se dit. Et ça, c'est mes valeurs qui parlent quand je dis j'ai un doute. Et puis, je respecte ceux qui vivent.
Mais ça ne les freine pas.
Mais non, du tout, parce que je pense que je suis dans le non-jugement. Je suis formée à amener...
Alors ça, c'est une autre compétence. Une autre compétence, c'est le non-jugement.
Oui,
être capable
vraiment
de se distancer.
Oui. Et d'ailleurs, je dis souvent à la maison, il faut faire la différence entre ce que je dis au cabinet ou sur les réseaux sociaux ou dans mes vidéos et ce que je suis, moi, chez moi, dans ma vie de couple à la maison aussi. Voilà. Et ça, c'est peut-être un des premiers clichés qu'il faut que je travaille régulièrement au quotidien, en disant j'envoie des messages qui sont en lien avec ma profession, pour lesquels je suis d'accord quand je suis dans mon rôle, dans ma casquette de sexo, de conseillère en sexo. Mais par contre, dans ma vie privée, ben, y a des concepts que je ne suis pas OK d'appliquer, quoi. Voilà. Et ça, je
malgré
dois...
Malgré que tu puisses les prôner,
oui. Oui, je les prône parce que je fais fi de mes valeurs. Et si c'est OK pour les gens d'être dans telle et telle sexualité, c'est OK pour moi.
Ah, comme ça, d'accord.
Tant qu'ils sont, ouais.
Tant qu'ils sont épanouis, c'est OK. On n'est pas tous épanouis. Enfin, ce qui nous nourrit n'est pas la même chose pour tout le monde. Et pour moi, c'est OK, quoi. Même si des fois, je ne cache pas que j'appelle mon prof et j'ai besoin d'en débriefer avec lui. Et on se retrouve
entre ces...
Oui, ouais, voilà, parce que des fois, j'ai besoin aussi de ventiler et de savoir réellement si je me suis bien positionnée ou pas pour la seconde séance, par exemple.
Alors, tu parlais des clichés. Hein. Un des buts de l'interview ici, c'est de peut-être en faire tomber quelques-uns ou de casser peut-être des attitudes. Quelles sont les attitudes les plus machos auxquelles tu es confrontée en tant que sexologue? Tu as cette problématique qui se pose?
Au cabinet...
Bah, on parle sans tabou. Hein.
Au cabinet, jamais. J'ai peut-être eu une fois l'un ou l'autre client ou patient qui... Quand on arrivait au bout du travail, je disais, ben voilà, là, on clôture. Il disait, oui, mais moi, j'ai quand même envie de continuer à venir parce que vous êtes bien sympa, le café est super. Et l'échange est cool, voilà. Ouais. Donc là, tu recadres et tu te dis, ben non, c'est pas possible, le travail est terminé.
C'est plein d'éthique.
Voilà. avec une grande déontologie de les patients restent patients, les clients restent clients.
Aussi, quoi, ouais.
Parce que ça, c'est vraiment super important. Là où il y a un peu plus de débauche, c'est peut-être via les réseaux sociaux parce que les gens sont cachés derrière leurs écrans et que
là,
c'est beaucoup plus facile. Alors, allez, je vais dire 90% sont des gens qui disent bah oui, Graziella, c'est super, merci pour les messages. Mmh. Tu amènes. Ici, j'ai fait un petit tuto sur la masturbation. J'ai eu énormément de retours. Parce que, comme dit mon compagnon, je parle de la masturbation comme j'explique un jouet à un enfant. Mais c'est vraiment ça, parce que pour moi, la sexualité, ça doit être ça. C'est pas un jeu, c'est un épanouissement sexuel. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous remplit. Et peu importe comment on pratique sa sexualité. Voilà. Et du coup, on peut en parler simplement. Donc, forcément, dans mes tutos, j'en parle comme j'en parle à table avec mes enfants, quoi. Vraiment. Et c'est vrai que ça donne peut-être une image de l'extérieur, de la fille qui est à l'aise, qui peut entendre tout. Et du coup, il y a certains messages privés qui arrivent qui ne sont pas toujours très gays. Voilà. Et puis, il y a des gens que je choque. Parce qu'il y a des gens pour qui... Et là, je parle
c'est
de la dernière...
Tabou,
la masturbation, qu'est-ce que tu viens raconter avec ça, quoi. C'est, on ne se masturbe pas.
Sur un réseau,
se masturber,
dans les enfants,
c'est tromper. Ouais. Enfin, voilà. Donc, on arrive dans ces clichés. Et le message que je envoie à ces gens, c'est ben, c'est OK, je respecte. Si pour vous, c'est ça, et si vous êtes OK et à l'aise en ne vous masturbant pas, c'est OK pour moi. Mais c'est dommage parce que ça enlève plein de plaisir et ça permet surtout de ramener du piment dans son couple. Et quand on n'a personne dans sa vie, ben, de continuer. Continuer, comme je dis souvent en rigolant, à entretenir sa machine, c'est important pour garder les petites connexions au niveau du cerveau, pour que lorsqu'on rencontre quelqu'un, ces connexions soient plus rapidement reconnectées. Et en même temps, la masturbation dans le couple, elle amène des jeux. Et quand il y a une difficulté sexuelle parce que la dame ne sait plus se faire pénétrer ou parce que le monsieur n'est plus capable de pénétrer, ben heureusement qu'il reste la masturbation, quoi. Ça permet d'échanger, ça permet de lier le couple même s'il n'y a pas la pénétration. Donc, pour moi, la masturbation, c'est bénéfique, et je vous passe, c'est bénéfique sur la prostate. Hein. Enfin, voilà. Et moi, j'en parle vraiment comme ça, ouvertement, et ça fait partie, je ne vais pas dire, de tous mes sujets de conversation dans ma vie privée, mais souvent.
Est-ce que tu t'occupes que de la vie sexuelle ou est-ce qu'il y a aussi une thérapie de couple plus large?
Il y a
peut-être
thérapie.
Un lien
Il y a une thérapie de couple qui se met derrière. Ils ne viennent pas tous avec un problème sexo.
Non,
même
voilà.
Si derrière,
mais
ça peut découler à un problème sexo, ils viennent parce qu'ils ont des difficultés avec les enfants, parce qu'ils
ont des questions sur l'éducation peut-être de l'enfant.
Oui, il y a des désaccords par rapport à ça.
C'est ça.
Voilà,
et alors, on fait du coaching parental. Hein, et il m'arrive de ramener aussi des enfants dans le coaching au cabinet en disant, OK, on a coaché papa-maman, ben maintenant, on va faire ça en famille et on prend tout le monde et on coach aussi, oui, bien sûr.
Mais donc, si tu dépistes, ou si le couple arrive avec un problème sexuel et que derrière, là, il y a un autre problème, tu sais...
Je sais le régler. Souvent, ils arrivent par la porte du problème de couple. Et puis, c'est en grattant très vite, je me rends compte que quand je leur demande la question fatidique, et comment vous allez dans votre vie sexuelle, et ils me disent très 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 bien, ils n'ont même pas réfléchi, qu'ils ont déjà répondu. Ben là, je note, j'entoure et je fleurisse sur ma feuille en me disant, ben là, on y reviendra parce qu'il y a un petit souci là-bas. Voilà. Mais ça, c'est la pratique du décodage, du questionnement du coach, et tu vois très vite quand il y a un sujet. Alors, je n'en parle pas parce que les gens ne sont pas prêts à le déposer. J'attends vraiment
qu'eux le déposent,
ou en tout cas qu'ils ouvrent une petite porte
forcer,
pour que je puisse arriver. Mais souvent, je leur dis, ce problème, je l'avais noté, et je monte ma feuille. dès les trois premières minutes quand vous étiez au cabinet, quoi. Donc voilà.
C'est un métier que les gens, je trouve, connaissent pas encore assez bien. Non. Finalement.
Non, et c'est beaucoup de clichés. Je pense que même dans mon entourage, c'est difficile de dire que je suis sexo, quoi. Ouais. Et je pense que mes enfants, maintenant mes filles grandissent, mais mon petit loulou doit pas super être à l'aise d'expliquer ce que je fais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché sur ce métier
Si je fais de la sexo appliquée, donc c'est-à-dire si je fais des exercices avec eux, et là on dévie vers des cabinets qui existent, hein, où effectivement on est dans de la pratique, dans des massages. Donc non, je fais pas de la sexo appliquée. Oui, je peux avoir une plaquette avec le dessin d'un pénis pour expliquer un petit peu le mode de fonctionnement, mais ça s'arrête là. Mais au cabinet, j'ai rarement de difficultés. Après, c'est les gens qui sont peut-être un peu crus quand ils osent parler au cabinet. Donc, c'est recadré, dire « Ok, on est en sexo, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas s'exprimer correctement. » Surtout quand on dénigre l'autre membre du couple. Donc, c'est ramener le respect.
Plus délicat, je crois.
Ça, c'est plus délicat. Et ça, en tant que femme et féministe que je suis, je tiens très fort à ramener ça, surtout quand c'est les messieurs. Même si... Et là, je vais encore casser un gros cliché, hein. Même si souvent, ce sont nous les dames qui parlons et pas toujours très bien nos messieurs dans la sexualité, parce qu'aujourd'hui, nous les femmes, on est beaucoup plus épanouies et nos messieurs vivent le revers des féministes. On veut de la performance. Et non seulement on la veut, mais on la réclame et on dit, grand, là, ce soir, t'as pas assuré, quoi. Et du coup, ça castre les messieurs et ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés sexuelles chez les messieurs. Et je dis souvent, ne fût-ce qu'avec mes copines, mais parlez pas comme ça, quoi. Parce que quand vous dites ça le touche, quoi. Quand vous dites devant un monsieur, il a un petit zizi, ça n'a l'air de rien, mais ça amène beaucoup, beaucoup de complexes et ça va amener beaucoup, beaucoup de blocages. Donc, attention à comment on parle. Et là où on se dit, c'est souvent les hommes qui disent que les femmes, c'est des salopes, elles ne parlent pas spécialement, ils ne parlent pas très bien de la femme. Mais moi, je peux vous dire que souvent, la femme aussi ne parle pas très bien de l'homme. Et là, on a vraiment une équité aujourd'hui.
Tu es confrontée, bien entendu, au changement sociétal, c'est-à-dire qu'il y a des couples différents qui se forment plus facilement maintenant que ce n'était par le passé. Oui. On a aussi la question de l'adoption, d'avoir un enfant, couple homosexuel, ce genre de questions t'arrivent parfois.
Je n'en ai pas eu. J'ai déjà eu des couples homosexuels. Et souvent, c'est plutôt pour accompagner le coming out dans la famille. Ouais. Voilà, c'est vraiment souvent ça.
Ou le
rejet de l'autre, parce qu'il dit, moi, mon compagnon, il en a parlé chez lui, c'est OK, il est intégré dans sa famille, il ne comprend pas que moi, je le cache, parce que pour moi, ce n'est pas possible dans ma famille. Et là, on travaille toutes les valeurs et toutes les croyances des familles.
Ça va
aller très, très loin, oui, vraiment.
Je voudrais que tu finisses par les avantages et les inconvénients de ton métier, si tu devais les résumer en quelques mots.
Alors, les inconvénients, c'est de systématiquement ramener pour avoir du respect. En tout cas, pour être respectée dans ce que je dis, dans ce que je
fais.
Tout le temps. Et une rigueur et un maintien vis-à-vis des gens. Donc, être vraiment très droite. Alors que d'habitude, je suis une petite faux-folle. J'essaye vraiment d'avoir un rôle, une position très, très stoïque. Le côté positif qui est à la fois un inconvénient, c'est que je suis une passionnée et que je ne calcule pas mes heures de travail et que je peux en parler des jours et des jours. Et je suis intarissable sur le sujet tellement j'aime bien voir le bien que ça peut procurer aux gens. Voilà.
Est-ce que parfois tu rencontres des problématiques lourdes, des gens avec des idées pas bien ?
Suicidaires, tu veux dire ?
Non, au niveau de la vie sexuelle, je pense à des gens qui violent, des choses comme ça. Est-ce que tu rencontres ?
Non. Ceux-là, non. Ils n'arrivent pas jusque chez nous. Si je détecte ça, j'ai l'obligation de les envoyer consulter vers un psychiatre, là. Okay. Et à partir du moment où ça touche un enfant, de dénoncer. Mais je préviens toujours la personne et dis, voilà, là, j'ai de l'info, je ne suis pas OK avec ça, je vais devoir effectivement dénoncer. Mais ça ne m'est jamais arrivé.
Non.
C'était le cas quand je travaillais dans les écoles, hein, où je faisais de la vie affective et sexuelle avec les enfants. Les enfants venaient me raconter ce qui se passait à la maison. Et là j'étais obligée de dénoncer via le centre PMS de l'école. Et voilà, donc ça, c'était plus inconfortable pour moi à l'époque.
Non. Tu es coach, tu as une certaine expertise. Et on va aborder au mois de septembre, entre recruteurs et patrons d'entreprise qui nous regroupons pour nos soirées Char Meetup, le thème de la réintégration de personnes après une longue absence. Mon petit doigt me dit que tu es aussi active dans le coaching sur ces aspects-là. Et donc, j'ai pensé à te poser trois questions. D'abord, on va définir c'est quoi une longue absence au final maintenant ? À partir de quel moment ça pose un problème, une absence ? Quand il faut réintégrer une équipe ?
Quand vraiment on sent qu'il y a un grand décrochage, hein, ça peut être un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an.
Si vite ?
Oui.
D'accord, donc ce n'est pas forcément deux ans.
Mais le décrochage, il ne se fait pas que par l'absence, que par le nombre de jours d'absence, il se fait par le mental aussi. Et à partir du moment où j'ai lâché l'équipe et que je ne suis plus au cœur des projets, que je n'ai plus été tenue au courant. Alors au début, les collègues, ils appellent un petit peu, beaucoup, et puis après, ça se fait de moins en moins.
Ça s'estompe,
c'est plus compliqué. Moi, je les vois parce que les médecins traitants m'envoient les personnes plutôt sujettes à du burn-out. Voilà, donc je les coach au niveau du burn-out. Et quand ils doivent effectivement
réintégrer
l'entreprise, c'est compliqué parce qu'ils se sentent fragiles, ils ne sont pas bien. Et pourtant, à un moment donné, il faut réintégrer, c'est important. Donc, plus on est longtemps absent, et plus c'est compliqué. Donc, il faut très vite essayer de dire à la personne, allez, OK, on prend
mais
le
un
temps.
Mois, mais un mois peut suffire pour dire que c'est déjà une longue absence.
Oui, pour moi, oui.
Pour toi, oui. D'accord. Alors, justement, quand on réintègre une personne comme ça après une absence assez longue ou qui a en tout cas un impact suffisant pour être considéré comme tel, qu'est-ce que tu as déjà observé comme pratique ou comme méthode qui fonctionne bien? La meilleure bonne idée qu'on puisse avoir.
Alors, j'ai envie d'abord de dire que souvent, il n'y a rien qui est mis en place hein, et qu'il faut un peu bousculer.
C'est un constat.
Pour... Oui.
Donc, on
ne
s'étonne pas que le sujet vienne à notre... dans notre communauté.
Oui, rien n'est mis en place. Et souvent, moi, je frappe à la porte de direction et on me regarde avec des yeux en disant « Mais qu'est-ce qu'elle vient faire, celle-là, cette coach privée qui rentre dans l'entreprise ?» Parce que pour moi, c'est important que l'employé revienne dans des conditions confortables pour lui. Alors d'abord, je donne des outils à l'employé qui est en absence. Je lui donne des petites techniques pour travailler, pour essayer d'être bien. Moi, je lui donne des outils d'auto-hypnose pour vraiment l'aider à être bien.
Ça allait être ma troisième question. Tu anticipes très bien. C'est justement, alors, puisque tu as dit, tu as pas vraiment dit, qu'est-ce que tu as observé qui marche bien?
Ce qui marche bien, c'est quand je frappe à la porte de l'entreprise, que je dis à mon client, je vais vous accompagner dans le retour en entreprise.
Ouais.
Je vais aller voir la direction et peut-être qu'on va faire une réunion d'équipe avec vous ou pas, en fonction de si la personne se sent courage ou pas.
Et
on va mettre en place des choses pour que votre travail soit le plus agréablement possible remis en place. C'est-à-dire qu'il sache ce qu'on va lui donner comme travail, quelles sont les tâches qu'on va lui donner et comment on a aménagé son temps de travail. Et ça, c'est super important. Et du coup, il y a un petit monitoring qui se fait. Donc, c'est là où je rentre dans les entreprises et je vais sur place et je vois comment ça se passe. Et on fait un débrief avec l'équipe et on peut faire aussi un débrief avec les directions. Alors, il y a certaines directions qui ferment la porte et puis il y en a d'autres, il faut un peu la pousser. Mais ça, j'aime bien de la bousculer. Je la bouscule très fort. Et puis, la porte s'ouvre. Et là, lorsqu'il y a de nouveau un décrochage, eh bien, souvent, c'est ce directeur d'entreprise qui me rappelle en me disant « Tiens, l'autre fois, ça avait bien fonctionné. C'est intéressant que vous reveniez, tout compte fait, nous dire comment on peut réintégrer cette personne. Voilà. »
Ok. Et ma dernière question, donc, c'était « Qu'est-ce qu'on peut faire mieux, alors, pour intégrer quelqu'un par rapport à ce qui se fait actuellement ? Qu'est-ce qu'on devrait ajouter comme approche ?
C'est d'éviter le décrochage trop longtemps. Donc, c'est OK, donner à la personne la possibilité de se reposer, de se ressourcer, c'est indispensable, mais très vite de reprendre le travail sous monitoring, donc avec des conditions respectables pour lui, et un retour, c'est-à-dire qu'à la fois, l'employé nous donne le retour de comment il va, et en même temps, la direction ou le responsable nous fait un retour sur comment ça se passe, quoi. Et du coup, si l'employé n'est pas super à l'aise et n'est pas performant, ça veut dire que moi, quand je le reprends en cabinet privé, je peux travailler ce qui ne va pas sur le lieu du travail. Et donc, c'est vraiment un vrai partenariat. Et ça devrait être imposé par la médecine du travail pour toutes les reprises après des longues absences.
On espère qu'ils vont t'entendre. C'est un joli
Allez.
Mot de conclusion. Merci Graziella, pour
merci
ton temps,
merci
de t'être
beaucoup.
Déplacé pour nous. Et tu reviens quand tu le souhaites.
Un grand plaisir. Merci.
Avec plaisir. Au revoir.
Podcast.